Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée.
Et puis on revient sur la retraite et l'âge pivot, bien sûr, avec cette question, êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 64 ans? Eh bien, c'est non à plus de 70% sur Twitter et plus de 90% de non sur Facebook, en tout cas pour les gens qui ont voté durant cette matinée. Et on en parle ce matin avec Marie-Christine Verdier-Jouclas. Bonjour. Vous êtes députée du Tarn et porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Et Luc Farré, bonjour, secrétaire national de l'UNSA. Et vos appels, bien entendu, aux 0826 300 300.
Oui, et il y a beaucoup de réflexions sur l'ensemble des votes qui sont très très nombreux. Il y a par exemple quelqu'un qui dit il y a énormément de choses à prendre en compte, les années d'études, l'emploi, les réformes à venir, les étudiants d'aujourd'hui travailleront bien au-delà de 64 ans. Donc ça, ce n'est pas faux. Mais alors il y a quelqu'un qui est Véro qui dit oui, car je n'ai pas un travail difficile physiquement. Donc psychologiquement, vraiment, si ça peut permettre à des ouvriers dans le bâtiment de partir plus tôt, alors par solidarité, je le ferai. Par contre, pas de retraite à point, là, c'est non à 100%. Vous voyez, il y a beaucoup de réflexions particulièrement intéressantes. Luc Farré, Marie-Christine Verdier et Jouclas, est-ce que finalement, c'est là que va se jouer sur cet âge d'équilibre la réforme des retraites?
Je ne sais pas si elle se jouera sur ce point-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'âge d'équilibre annoncé par le Premier ministre pose de nombreuses questions.
Oui.
D'abord, parce que le Premier ministre a annoncé un âge d'équilibre qui va s'appliquer, en fait, dès la génération 1960. Ça veut dire que ce sont déjà des gens qui ont prévu de partir en retraite qui vont devoir travailler plus longtemps. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose de contradictoire avec ce qu'il a annoncé par ailleurs, l'application de la réforme par point, puisque c'est comme ça qu'on doit l'appeler, du système universel qui s'appliquerait à partir de la génération 75. Donc il y a une contradiction. Et donc, nous, on dit au gouvernement, à l'UNSA, cet âge pivot ne peut pas s'entendre comme cela, parce qu'il y a des gens qui peuvent aujourd'hui partir à 62 ans, effectivement, et qui ont prévu de le faire. Mmh. Il n'y a pas de raison, alors qu'ils ont leur trimestre actuellement, de devoir travailler plus longtemps.
Oui, parce que ça pourrait rentrer en application dans 2 ans, hein, c'est ça?
Et de fait, oui. Et de fait, ça va impacter des gens, je vous ai dit, nés en 1960, ce qui est en contradiction avec ce qu'on a toujours fait dans les différentes réformes de retraite qui ont eu lieu jusqu'à présent, c'est-à-dire de préserver plusieurs générations avant que la réforme ne s'applique.
Oui, Marie-Christine Verdier-Jouclas.
Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne, les Français travaillent 63,4 mois. Et je les invite à aller sur le simulateur existant pour voir, dans leur situation actuelle, dans le régime actuel, jusqu'à quel âge ils travailleront. Je vous assure que j'ai fait l'exercice et que j'ai incité les citoyennes et les citoyens de mon département à le faire. On a des surprises. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on voit que dans un sens. Mais aujourd'hui, vous avez par exemple 20% des femmes, parce qu'elles ont eu des carrières interrompues, qui sont obligées d'aller jusqu'à 67 ans pour avoir leur taux plein.
Ça, c'est vrai. Ouais.
Donc là, on dit qu'elles n'iront que jusqu'à 64 ans. Donc pour elles, c'est quand même une avancée importante. Et enfin, c'est pas tout à fait ce qu'a dit le Premier ministre. Le Premier ministre a dit « Oui, nous sommes en responsabilité et nous devons expliquer aux Français que si on veut avoir un régime pérenne, il faut pouvoir le financer. » Donc nous disons qu'en 2027, nous ferons et nous appliquerons un âge d'équilibre à 64 ans, si les organisations syndicales ne se saisissent pas et ne nous proposent pas une trajectoire différente auquel cas on est prêt à la prendre. Et je crois que ça, c'est quand même important. Et pour finir, c'est pas tout à fait en 2027, tout le monde sera dès maintenant à 64 ans. C'est 4 mois par année à compter de l'année prochaine.
Oui,
donc,
oui.
Et à partir de 2027, effectivement, l'âge d'équilibre, si les organisations syndicales ne nous ont pas proposé autre chose, ça sera 64 ans. Mais encore une fois, aujourd'hui, on travaille déjà en moyenne jusqu'à 63,4 mois.
Oui, mais alors pour les gens qui ont leur trimestre auparavant et qui peuvent arrêter plus tôt, là, ils seront coincés, ils seront pénalisés.
Mais aujourd'hui, vous avez la même chose. L'âge délégué de la retraite est à 62 ans. Il ne change pas. Attendez, aujourd'hui,
ils auront une décote.
Mais comme aujourd'hui, parce qu'encore une fois, je vous répète qu'en moyenne, les gens travaillent jusqu'à 63,4. Donc, quand je vous parle des femmes qui vont jusqu'à 67 ans, madame, elles ont une décote alors qu'elles pourraient partir à la retraite à 62 ans. Et d'autres personnes peuvent partir à la retraite à 62 ans sans avoir effectivement de décote. Mais aujourd'hui, en moyenne, ben, vous avez systématiquement
une
décote.
Moyenne dont on puisque parle, c'est à 63. Ce sont des gens en particulier qui, aujourd'hui,
mais quand vous avez la SNCF,
je vous ai écouté beaucoup.
Non, mais juste, je finis. Quand vous avez la SNCF et la RATP qui partent à 57 ans, forcément, ça fausse la moyenne.
Ça n'a rien à voir, madame. Ça n'a rien à voir parce qu'on confond plusieurs
choses. Luc Farré, oui.
La première des choses qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui, à 62 ans, ont leur trimestre. Il y a les gens qui sont en carrière longue. Ceux-là seront impactés peut-être par votre système.
Non.
Non,
on
j'entends, s'est engagé. J'entends cette réponse.
Ils partiront 2 ans plus tôt.
Parfait.
Que tout le monde.
2 ans plus tôt ou 2 ans par rapport à ce fameux âge pivot.
Non.
Parce que dans ce cas, ça veut dire qu'ils travailleront plus longtemps.
On ne touche pas aux carrières longues. Donc aujourd'hui, tous ceux qui ont travaillé avant 20 ans.
J'entends votre
partent
réponse.
À 60 ans, on ne touche pas aux carrières longues.
J'entends votre réponse, mais je redis, à 62 ans, aujourd'hui, un certain nombre de Français ont leur trimestre.
Combien?
Et donc, ces personnes ont prévu de partir à 62 ans sans décote. Ils doivent pouvoir continuer à le faire demain. Cette réforme, au départ, c'est une réforme systémique. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec un système par points. L'UNSA ne l'a jamais demandé. Mais on est prêt à en discuter, à condition qu'il n'y ait pas de perdant.
Mais c'est très
et
bien
donc
de vouloir
là,
en discuter
la première
déjà.
Des mesures importantes qui va s'appliquer à des gens nés à partir de 1960, c'est cette première mesure d'âge pivot qui pourra les obliger à travailler 4 mois de plus. 8 mois de plus, et au final,
2 ans de plus.
Donc là, il y a une question importante
oui,
qui est
posée.
Oui,
moi j'aimerais bien que vous répondiez à ma question.
Je vous dis, madame,
combien
qu'il y a
de Français
une
sont concernés
majeure.
Aujourd'hui, qui partent à 62 ans avec leur retraite pleine, si on exclut effectivement ceux qui ont des régimes spéciaux.
Oui, bah, c'est vrai qu'il y a déjà...
Je ne confonds pas les gens qui partent à 63 ans et quelques mois avec ceux qui ont une carrière complète. C'est une question de justice, madame. La justice, ce n'est pas une moyenne. La justice, c'est le fait de permettre à des gens qui ont travaillé de pouvoir bénéficier de leur retraite. Alors,
mais
moi,
la justice,
je suis un petit peu
c'est aussi de faire en
que...
sorte qu'un euro cotisé donne les mêmes droits pour tous, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit du salarié. Non, mais je vous parlais de justice. La réforme qu'on veut faire, c'est aussi une réforme de justice.
On poursuit dans un instant et avec des auditeurs en ligne également. Et il y a Mamounette, par exemple, 64, qui dit « Non, je ne suis pas d'accord, mais je n'ai pas le choix. Je travaillerai jusqu'à 70 ans si je ne suis pas morte avant, dit-elle. Mais je pense aux jeunes qui n'ont peut-être pas de retraite. Alors, il faut se battre aussi pour eux. Donc voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de réponses, on en parle dans un instant, juste après aussi un petit appel.
Oui, non mais on avait un message aussi de Machin qui nous dit à 63 ans et demi, conduire
machin.
Un camion. Oui, Machin Truc il s'appelle.
Oui, Machin Truc.
À 63 ans et demi,
son nom quand même,
conduire un camion ou refaire une toiture, c'est pas un peu dangereux, point d'interrogation.
Ça c'est pas faux.
Donc ce matin, on va vous offrir un peu de bonheur et des cadeaux, puisque le sapin de Sud Radio a été mis en place avec énormément de cadeaux à l'intérieur. C'est simple, vous nous appelez, vous nous donnez un chiffre et il y a un cadeau qui correspond au chiffre. C'est comme l'euro million, c'est-à-dire que chaque gagnant a joué.
Oui,
donc 0826 300 300, et c'est le 15e appel au standard qui
allez,
sera récompensé
parti.
Au standard.
Et on se retrouve dans un instant sur notre débat. Êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 64 ans?
9h29, bougez pas.
Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée.
Et la suite de notre enquête, 9h32, merci d'être avec nous. Luc Farré, secrétaire national de l'UNSA, et Marie-Christine Verdier-Jouclas, qui est députée du Tarn et porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Vos appels, 0826 300 300.
Alors, il y a Gaëtan qui nous appelle, qui est au 0826 300 300, qui nous appelle de Quimper, de Bretagne. Tiens, donc, c'est pas si
bonjour,
fréquent.
Gaëtan.
Bonjour Gaëtan.
Bonjour. Bonjour. Oui, donc, l'âge pivot, je crois qu'il est important de dénoncer que l'âge pivot, je ne sais pas si vous vous rendez compte que les médias ne font qu'en parler.
Oui.
C'est juste un chiffon rouge, une diversion de l'exécutif. Pendant qu'on parle de l'âge pivot, on ne parle pas du reste, on ne parle pas des autres paramètres qui vont poser des gros problèmes dans cette réforme, et on ne parle pas non plus des pompiers, des infirmiers, de tous ces gens-là qui depuis des mois et des mois manifestent, et on étouffe leur colère.
Ouais.
Et donc, pour revenir aux paramètres de cette fameuse réforme des retraites, moi j'en vois 5. Donc il y a l'âge pivot, 64 ans, donc obligé de travailler 2 ans de plus, mais surtout il y a aussi la valeur du point. Et on peut dire la valeur du point acquis, donc elle pourrait être changée à tout moment, une loi pourra la changer, parce qu'on sait qu'une loi en remplace une autre, mais il y a aussi la valeur du point qui n'est pas encore acquis. qui sait qu'un jour, elle n'aura pas une valeur différente du point acquis. Ça, on n'en sait rien. Il y a deux autres critères, comme le calcul de la carrière sur les 25 meilleures années. On sait que ça pose problème à beaucoup de monde, ça baisse les pensions, c'est évident, c'est mathématique. Donc ça, c'est pareil, c'est étouffé. Et enfin, la part des retraites dans le PIB, on se base à 14%. Mmh. Qui dit que dans quelques années, ce ne sera pas à 13%. Et hier, j'écoutais M. Darmanin sur RFM qui disait « Ne vous inquiétez pas, le PIB, de toute façon, chaque année, il ne fait qu'augmenter, donc la part du gâteau augmentera ». Donc, moi, j'ai une question à poser à M. Darmanin. Si le PIB, c'est-à-dire les richesses françaises, augmentent chaque année, pourquoi les Français n'en bénéficient pas? Voilà, il y a plein de contradictions dans leur langage. Mmh. Donc, voilà, l'âge pivot, c'est juste un chiffon rouge. Attention.
Ouais. Restez avec nous. Luc Farré et Marie-Christine Verdier-Jouclas vont répondre. Luc Farré, d'abord, oui. Sur le chiffon rouge. Oui,
l'âge pivot, c'est une question essentielle. C'est une question essentielle parce que, je l'ai dit, c'est une question de justice qui est posée pour les gens qui ont leur trimestre aujourd'hui ou qui auraient leur trimestre à 62 ans. Et ça, c'est vraiment important. Mais c'est aussi une deuxième question. Est-ce que cet âge pivot peut bouger? Si cet âge pivot peut bouger, alors se pose une deuxième question. Et puis, monsieur évoque la valeur du point qui pourrait bouger et être modifié par une loi. Moi, je rappelle souvent cet élément-là, que ce soit compté par point ou par trimestre, ça ne change pas grand-chose au regard des réformes passées où on a bien vu que la valeur des trimestres avait pu baisser dans les différents régimes, dans les différentes réformes qui se sont succédées depuis un certain temps. Ensuite, Le PIB, 14%, moi, ce que je comprends de cet élément, c'est que c'est fixé aujourd'hui dans la loi. Donc, 14% maximum du PIB. Je pense que, en tout cas, le Premier ministre, sans vouloir le défendre, a réaffirmé 14% du PIB. Nous, on entend à l'UNSA cet élément. Et ce que nous voulons, et je le redis, c'est qu'on ouvre réellement des négociations pour qu'au final, on n'est pas de perdant dans cette réforme. Et je me permets de rappeler qu'à 63 ans, quelque chose,
4,
qui est l'âge moyen de départ à la retraite, il y a un certain nombre de Français qui ne sont pas dans l'emploi au moment où ils prennent leur retraite. Et moi, j'insiste beaucoup en disant, il y a une vraie question, comment faire que les Français soit dans l'emploi, et puis comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce n'est pas évident pour certains métiers de travailler jusqu'à 63 ans, 64 ans ou plus.
Oui, c'est ce que disait un auditeur. Évidemment sur un message. Marie-Christine Verdier-Jouclas.
Oui, alors par rapport à... Je vais peut-être rebondir juste sur l'histoire de la pénibilité,
oui.
De celui qui est sur
oui,
le
oui,
toit.
Oui, voilà. Bon. Oui.
Ben, justement, avec le régime universel qu'on veut faire, on veut pouvoir tenir compte de la pénibilité d'un certain métier qui aujourd'hui ne sont pas prises en compte. Et c'est tout le travail que nous devons faire en suivant. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, quand on est infirmière de nuit, quand on est carreleur, ben, on a des métiers pénibles et aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte. Pour répondre à cet auditeur, la valeur du point, ce que je peux rajouter, c'est qu'on a dit que ça serait les syndicats, les organisations syndicales qui s'en saisiraient pour mettre la valeur. On a dit que le régime serait géré au niveau de la gouvernance à 75% par les partenaires sociaux, avec effectivement la supervision du Parlement, mais qu'on voulait que ce soit justement les partenaires sociaux qui le fassent. Cette valeur du point serait indexée sur le niveau des salaires, ce qui est bien plus favorable que l'inflation aujourd'hui. Et je vous rappelle que nous avons quand même depuis des années un régime à point en France, un régime complémentaire qui est Agirc-Arrco, qui est géré par les syndicats, qui est très très bien géré, et je peux vous assurer que le point ne baisse pas. Voilà. Après, en ce qui concerne le PIB, je ne rajouterai rien, vous avez dit ce qu'il fallait dire. C'est une masse, de toute façon, quand on dit 14%, c'est bien un volume, de toute façon, de quelque chose. Et pour conclure, moi je dis que j'aimerais bien qu'on appelle Fabienne, Michel, Benoît, Bruno, Muriel, Hélène, Jean-Marc, Philippe, Isabelle, Séverine, Patrick, et tant d'autres, c'est-à-dire des citoyens de ma circonscription qui, eux, sont favorables à cette réforme de retraite. Parce que quand même, on entend sur les ondes uniquement des personnes qui sont contre. Mais je peux vous assurer qu'il y en a plein qui sont pour.
Alors,
et j'aimerais bien que des fois...
Le standard est ouvert. Bah oui.
Et oui, mais si vous voulez, cette majorité... Cette majorité silencieuse ne prend pas le temps effectivement d'appeler pour dire oui, c'est bien, mais ils nous le disent à nous.
Ouais,
et je voulais simplement les saluer ce matin.
Eh bien, 0826-300-300.
Voilà, Fabienne, Patrick et les autres, vous pouvez appeler. Le standard est ouvert évidemment sur Sud Radio.
Bien
parlons
sûr,
vrai.
Tout le monde a la parole.
Oui. Luc Farré.
Oui, moi, je veux pas savoir si les gens sont favorables ou défavorables. La question n'est pas là. La question est de savoir qu'est-ce que les gens vont avoir comme pension au moment où ils vont prendre leur retraite. Et aujourd'hui, on sait que la pension est calculée d'une certaine façon et on peut parfaitement comprendre qu'avec un changement complet de calcul, il y ait des inquiétudes qui soient réelles.
Et nous devons les rassurer.
Mais justement, l'une des raisons de toutes ces inquiétudes, c'est que les gens ne comprennent pas, ne savent pas avec quelle somme réelle, en euros, ils vont pouvoir avoir au moment de leur retraite demain.
Pour l'instant.
Et cette, mais pas seulement pour l'instant.
Mais si, pour l'instant.
Parce que, au final, aujourd'hui, ils ont des simulateurs pour leur propre régime,
oui, voilà,
pour leur propre calcul actuellement avec les règles actuelles. Mmh. Et demain, c'est une inconnue.
Mais
et cette inconnue-là, elle doit aujourd'hui être levée, et ce, avant que l'on vote la loi.
Alors,
parce que si on ne vote pas la loi, si on vote la loi en ne sachant pas avec quelle somme d'argent les gens auront, eh bien, au final,
monsieur...
on peut échanger quelque chose qui marche. C'est le cas des 42 régimes aujourd'hui, avec quelque chose de beaucoup plus compliqué.
Mais vous ne pouvez pas dire que les 42 régimes fonctionnent aujourd'hui.
Eh bien,
les 42 régimes fonctionnent, mais en tout cas, ils ne sont pas
du tout
équitables. Et si je peux me permettre de vous répondre par rapport au simulateur, comment voulez-vous aujourd'hui que nous mettions en place un simulateur pour que chacun aille calculer sa future retraite à partir du moment où nous n'avons pas encore arrêté tous les paramètres? Pourquoi? Parce que nous sommes en négociation avec vous. Ça serait quand même fort de café si on mettait un simulateur alors qu'on n'a pas fini de négocier avec les organisations syndicales.
Mmh.
On
alors
a dit que c'est vous. Attendez,
point.
On a dit que c'était vous qui fixiez la valeur du point. Et vous voulez que nous on mette un simulateur sans effectivement vous consulter alors, sur la valeur du point.
Le Premier ministre simulateurs, a dit quelque chose qui nous
les
ennuie.
Les simulateurs qui vont mettre en place, c'est des exemples concrets sur des choses sur lesquelles on peut s'avancer. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez une femme qui a une carrière interrompue. Voilà aujourd'hui qu'est-ce que ça fait par rapport à sa retraite. Voilà demain les avancées par rapport à ça, au nouveau régime et qu'est-ce qu'elle pourra avoir droit, alors qu'aujourd'hui, elle n'y a pas droit. Mais il faut être cohérent, on ne peut pas vous confier quelque chose et mettre en place des simulateurs.
Ouais. Alors, je redis, vous dites que vous confieriez aux organisations syndicales des éléments du régime, la gouvernance, c'est comme ça qu'on dit, du régime, mais la réalité aussi, c'est que le Premier ministre a dit, tout en laissant le dernier mot au Parlement. Ce qui veut dire, et ce qui signifie, qu'à chaque fois, le Parlement pourrait réintervenir. Donc, c'est pas
donc
tout
ça devient
à fait
des consultants.
Non, je ne peux pas laisser dire
point.
Ça.
Le deuxième
75%
point,
du régime sera confié
pas
aux partenaires.
75%, c'est 100% du
non,
régime.
Vous avez
c'est 75%.
Parce que vous avez 75%, si vous voulez, où c'est la contribution directe, et vous avez 25% qu'on appelle de solidarité qui est payé par les impôts. On a dit qu'on confierait cette gouvernance aux partenaires sociaux avec la supervision du Parlement.
Supervision du Parlement.
Mais c'est pas... Ça ne veut pas dire que le Parlement a le dernier mot. Enfin, chaque mot est important.
Qu'est-ce que veut dire supervision?
Mais la supervision du Parlement, ça veut dire que nous aurons effectivement un droit de regard et que nous devrons nous mettre
droit
d'accord.
Droit de regard. Donc ça veut dire qu'on ne laisse pas la liberté aux partenaires sociaux de pouvoir prendre les décisions qu'ils jugent utiles.
C'est à vous de négocier, monsieur. Je suis désolée, la balle est dans votre camp pour l'instant.
Vous parlez de négociation.
Vous voulez dire que quoi? C'est une décision collégiale.
Oui, c'est une décision qui doit être collégiale.
Vous parlez de négociation.
Comment agir? Car aujourd'hui, ça fonctionne très bien.
La fonction publique au nom de l'UNSA. Et je peux dire combien de réunions de négociation j'ai pu avoir aujourd'hui sur le sujet des retraites. Donc je vais vous le dire.
Oui.
C'est deux réunions. Et aujourd'hui, la prochaine réunion,
depuis
elle aura lieu dans quelques jours. Veut donc dire qu'aujourd'hui, certes, il y a la volonté de négocier, semble-t-il, mais ces négociations n'ont pas réellement commencé dans tous les secteurs. Donc il faut se dire que ça fait 18 mois que les discussions ont lieu, ça fait 18 mois ou quelques mois qu'on connaît le contenu du rapport Delevoye, et que s'est-il passé entre le 18 juillet et aujourd'hui? Le 17 décembre, c'est demain.
Eh bien, il y a eu 330 réunions publiques avec les citoyens, il y a eu
170
réunions avec les filières professionnelles, et il y a eu 53 réunions avec les syndicats.
Ouais, on vous entend pas. Bon, donc, en tout cas, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y aura sans doute des réunions et des discussions à partir de mercredi de nouveau. On va laisser passer la manifestation de demain, qui sera une journée test demain ou pas pour tous les deux?
Ça va être surtout une journée vraiment encore très très contraignante pour tous ceux qui n'ont pas le choix et qui sont obligés de se lever pour aller bosser.
Ouais, c'est une journée importante parce que ça permettra de montrer au gouvernement notre désaccord, entre autres, sur un certain nombre d'éléments qui qu'il a annoncé, ouais. comme en particulier l'âge pivot ou l'âge d'équilibre qu'on a essayé d'évoquer aujourd'hui.
Voilà, c'est ça qu'on a évoqué aujourd'hui. C'est pas la seule question, hein, parce qu'il y a par exemple, comme le disait Gaëtan qui était en ligne avec nous, il faut pas se borner uniquement à cet âge d'équilibre 62 ans, 62 ans.
Il a raison, parce que par exemple, la pension minimale à 1000 euros pour tous, si on a travaillé tout le temps, aujourd'hui c'est pas le cas, c'est une avancée sociale.
Une réelle pension à la hauteur du SMIC quand on a travaillé au SMIC.
Est-ce que chacun d'entre vous a bon espoir ?
Oui.
Moi, je suis assez confiante avec les syndicats qui sont progressistes, comme monsieur autour de la table, parce que je pense qu'on n'est pas si loin.
L'UNSA est prêt à discuter, mais la balle est aussi dans le camp du gouvernement pour savoir ce que le gouvernement mettra sur la table.
La force ouvrière, ça va être un peu plus compliqué, puisque eux, de toute façon, depuis le départ, ils refusent de négocier, et puis ils disent, c'est vous retirez tout, sinon...
Oui, c'est ça. Et notamment, comme dit Michael Sarrosi, la vraie question, est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur le système d'une retraite à points, ça, en tout cas pour la CGT, pour certains...
Moi, je suis vraiment d'accord. Parce que, on a déjà un régime qui fonctionne bien. Et puis, c'est surtout que ça va permettre de dire que chaque heure travaillée comptera. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous prenez les étudiants, il y a quelqu'un juste tout à l'heure qui en parlait. S'ils ne font pas plus de 150 heures par trimestre aujourd'hui, les petits boulots, ça ne compte pas pour la retraite. Demain, heure travaillée comptera et vous accumulerez des points tout au long de votre vie, y compris pendant les carrières interrompues.
Je redis que ce n'est pas la question du point ou du trimestre, c'est la question de savoir si les pensions seront à peu près celles d'aujourd'hui ou si elles seront plus basses.
Pour les enseignants, on s'est engagé.
Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable et que cette réforme de fait crée des perdants. Et nous, nous n'en voulons pas l'UNSA.
Mais nous non plus.
Merci.
Nous ne voulons pas de perdants.
Luc Faré, secrétaire national de l'UNSA, et Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous avez entendu, Fabienne, Pierre, Patrick, Jacques et les autres. Vous appelez 0826-300-300. Là, c'est trop tard, mais vous pourrez appeler chez Valérie Expert tout
à l'heure. Absolument.
Entre 11h et midi avant d'en trouver des Berkoff.
Et si on n'a pas réussi à vous mettre d'accord, on va vous mettre d'accord avec une auditrice ce matin qui est avec nous à l'antenne. Ah. Et elle s'appelle Cécile.
Oui, bonjour toute l'équipe.
Bonjour Cécile.
J'adore cette auditrice,
Ah bah Cécile, évidemment.
Qui nous appelle de Paris. Bienvenue Cécile.
Merci beaucoup.
Alors Cécile, vous avez gagné un cadeau, ça c'est sûr, mais lequel ? Vous allez me donner un chiffre entre, allez 0 et 30, allez-y.
0 et 30, allez le 7.
Le 7, attends. Eh bien, vous avez gagné un abonnement d'un an dans une salle de sport.
Ah, c'est super. Et voilà, c'est les fêtes de Noël.
Et ben voilà. Alors ça sent la bonne résolution de janvier.
Ouais, ça c'est vrai.
Et puis il faudra nous envoyer des photos avant et après, Cécile.
C'est ça, pour voir l'évolution.
En tout cas, merci, vous nous écoutez depuis longtemps.
Oui, depuis de nombreux mois.
Ah bon. C'est bien, en tout cas merci, vous êtes récompensé de votre fidélité. On vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année avec nous sur Sud Radio.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt. On vous embrasse. Allez, 9h46 dans un instant. Frédéric Ploquin sera avec nous et on reviendra sur la police judiciaire.
Grandes histoires de flics.
De 60 à 90 et je peux vous assurer que ça envoyait du bois à l'époque.
Ah,
ça rigolait
absolument.
Pas. Restez
avec
pour les perquises. 9h46.